CMBV, Centre de musique baroque de Versailles. Alors on a commencé ce projet en 2017, je crois. Lors de notre venue, on a rencontré Hervé Burkel-Dotel, qui est l'ancien directeur de la structure à l'époque, qui nous a reçus, qui nous a présenté le projet de leur désir de changer l'identité visuelle du lieu, et qui ensuite est parti. S'en est suivi une période assez longue où la structure n'a pas eu de direction, durant laquelle nous avons dû mener le projet d'identité visuelle. Alors, le Centre de musique baroque, c'est une structure qui regroupe différents pôles qui ont des contraintes de communication tout à fait spécifiques. Nous avons donc un pôle artistique, un pôle recherche, un pôle formation et un pôle édition.
Historiquement, ils avaient un logo, on va dire, calligraphique, où c'était écrit CMBV à la main, avec un problème peut-être de lisibilité un peu.
Ça ressemblait à une sorte de signature sur une partition, quelque chose d'assez vieillot.
Et chaque pôle utilisait ce signe à sa manière. Il n'y avait pas de cohérence globale.
Entre toutes les communications.
Entre toutes les communications. Donc il n'y avait aucune reconnaissance de la globalité de la structure, il y avait des reconnaissances par pôle. On pouvait identifier le pôle maîtrise, on pouvait identifier de l'autre côté le pôle artistique, par contre les deux n'avaient pas de lien réel entre eux. Notre mission, ça a été de faire le lien entre ces différents pôles et de proposer une identité visuelle cohérente sur l'ensemble de la structure.
D'abord, il y a peut-être eu une réflexion, une analyse du positionnement et de la mission du CMBV. On a très vite abouti à l'idée de faire rayonner la musique baroque du XVIIe et XVIIIe siècle en dehors des cercles d'initiés, mais aussi en dehors du territoire, parce qu'ils ont une vocation d'aller vendre la musique baroque française à l'étranger. Et donc cette idée de rayonnement nous a semblé très rapidement cohérente avec l'image qu'on se fait de la musique baroque, spécifiquement à Versailles, qui était le lieu emblématique de la musique de cette époque-là, Louis XIV qui invite et qui finance la scène baroque mondiale à l'époque, avec Lully, Rameau, Marin Marais pour la danse, et il y a tout un univers qui se développe là-bas. D'ailleurs, le CMBV est dans l'hôtel des menus plaisirs, qui était l'ancien bâtiment dans lequel étaient préparés les repas et les fêtes du roi.
Du roi soleil.
Qui rayonne.
Il y a un point qui était intéressant sur ce projet, c'était le fait qu'on s'est tout de suite posé la question de savoir comment il fallait traiter visuellement cette nouvelle identité visuelle. Le fait qu'il y ait baroque dans le titre, ça indiquait déjà quelque part un style visuel. Donc est-ce qu'il fallait se plier à cette injonction du style avec toute cette imagerie qu'on a bien en tête mais qui est quelque peu surannée, ou alors contraster tout ça et le traiter de manière un petit peu différente. Et on a vu très vite, avec l'équipe du Centre de musique baroque et puis ici en interne, on a choisi quelque chose qui était beaucoup plus moderne et beaucoup plus actuel, qui est beaucoup plus épuré, qui était beaucoup plus aussi en adéquation avec ce qu'on avait rencontré et l'équipe qu'on avait rencontrée, qui nous est apparue comme un ensemble de, quelque part, de chercheurs. J'ai plus identifié finalement les gens que j'ai rencontrés là-bas à des musiciens de jazz qu'à des musiciens classiques, et qui étaient capables d'improviser, qui étaient capables de discuter pendant des heures de musique baroque, et qui avaient un regard sur la musique baroque qui n'était pas du tout un regard figé, qui était quelque chose qu'ils avaient su vraiment ramener
au bout du jour. Pour rebondir sur la musique baroque, effectivement, quand on arrive sur un domaine un peu parfois en tant que néophyte, on a des stéréotypes, des idées reçues. On pense musique baroque, on pense musique ancienne.
Pour moi, c'est du clavecin, il y a plein d'ornementures.
Le mot baroque, il inspire un univers chargé.
Donc le mot est déjà chargé.
Et plein de stéréotypes et d'idées reçues. Et c'est vrai que la musique baroque, on a pu se rencontrer des gens qui, effectivement, avaient un esprit presque rock'n'roll par rapport à l'image qu'on peut avoir de la musique classique, qui est une musique très cadrée, avec des musiciens un peu
très
austères. Et dans la musique baroque, l'improvisation, les harmonies, etc., même la composition et le fait que toutes les notes ne sont pas écrites et qu'il faut improviser pour pouvoir jouer un morceau, fait qu'on a affaire à des gens qui ont une forme de liberté.
Ce qui se ressent dans le logo, par exemple. On voit les sortes de petites lignes qui sont un peu aléatoires au final.
C'est vrai. En tout cas, on le voulait vivant, ce logo, et le fait qu'il soit que la plupart de la charte institutionnelle soit faite sur un fond noir et que le logo soit en blanc, c'est pas anodin. C'est pour répondre quelque part à ce côté un petit peu presque scientifique qu'on a pu voir là-bas aussi, sur de l'étude, sur ce qu'on peut voir parfois actuellement dans de la data visualisation. On cherchait à avoir quelque chose qui avait un petit peu ce côté visuel. Le fait d'utiliser le rayonnement n'était pas anodin non plus, c'était quelque part une manière d'inscrire le Centre de musique baroque dans son univers géographique. C'est-à-dire, c'était le fait de le rattacher aussi à ces structures qui sont liées de près ou de loin au château de Versailles. Quelque part, c'était une manière de réaffirmer le fait qu'il appartienne à cet univers-là.
Très concrètement, dès le portail du château de Versailles, on retrouve cette image du roi soleil qui est reprise partout dans le château. Mais c'est aussi toute cette iconographie du XVIIe siècle, que ce soit dans la peinture, la sculpture, ou quand on prend les sculptures du Bernin dans les églises, où on a tous ces rayons qui partent du sommet de la coupole pour atterrir sur l'œuvre et diriger le regard, on est dans ce langage-là. Et du coup, l'idée, c'était de le retraiter de manière contemporaine, associé avec aussi cette idée du son et du spectre du son, comme on l'a sur les appareils électroniques, etc., qui est une représentation visuelle du spectre sonore. Et les deux mélangés, ben, ça provoque cette idée d'un logo finalement qui est toujours en mouvement, qui est toujours en train de se construire, et voire même on est allé jusqu'à le programmer pour qu'il puisse s'adapter à la musique.
Sur les vidéos.
Sur les vidéos, exactement. Techniquement, ce qui est rigolo, c'est un logo génératif. Ce qui est drôle, c'est qu'on l'a programmé dans After Effects. Je me souviens de Jérémy qui a codé le script After Effects pour que les rayons apparaissent en fonction de l'intensité du son. Donc il a analysé le spectre d'une musique qu'il a décomposé comme ça en code. En différentes images clés. Et du coup, il récupérait les fréquences basses, les fréquences aiguës, pour faire générer l'apparition de ces traits. Dans l'idée, le logo n'existe pas dans Illustrator de façon vectorielle, mais existe dans After Effects ou dans un logiciel de codage sous forme d'un script, avec l'idée derrière ça de pouvoir générer plein de variations différentes du logo suivant les usages. D'ailleurs, sur le site internet du CMBV, il est en version animée.
Mais même sur les cartes de visite, c'est pas forcément le même sur le papier en tête ou sur les lettres ou les enveloppes.
La charte, elle a connu de nombreuses modifications du fait qu'en cours de route et en cours de projet, le directeur ait été amené à quitter son poste et que la structure se soit retrouvée pendant presque un an et demi sans direction. Là, l'ensemble des pôles se sont retrouvés seuls et chaque pôle a tenu à tenter d'imposer, d'imposer ses contraintes. Et on s'est retrouvé avec une phase qui a été une phase de flottement pendant un an et demi où il a fallu composer avec différents désirs, avec différentes demandes, sans réussir, nous, à mener à bien notre mission qui était justement d'inscrire une cohérence et d'unifier tout le monde. Avec l'arrivée de Nicolas Bûcher, on a repris les discussions, on a repris le projet presque à la base. En tout cas, le logo était déjà fait, c'est pratiquement le seul élément, le logo et la typographie, ce sont les seuls éléments qu'on a gardés. Et on a repris le projet à la base pour le mener à bien, c'est-à-dire pour réellement proposer une charte graphique qui soit une charte graphique cohérente de l'ensemble de la structure.
Sur les choix typos, peut-être tu peux nous parler un peu des choix qui ont été faits et des jeux de contraste qu'on a entre ces deux caractères.
Exactement, sur les choix typos, c'est exactement ce que tu disais, c'est un choix contrasté. Le fait d'utiliser donc une Dalamoa qui vient de la famille de Dalafloda, qui est chez Commercial Type, qui est une typo avec beaucoup de contraste, qui est une typo de titrage, qui est une typo avec beaucoup de personnalité, qui nous permettait en fait d'inscrire quand même et d'apporter ce côté très dessiné, ce côté baroque, entre guillemets. De l'autre côté, on a travaillé avec une typo qui est une Hermès. Cette typographie-là est une typo bâton linéal, en fait, qui est très très simple et très sobre, quelque peu rounded, et qui permettait d'amener tout le côté moderne en fait, qu'on voulait insuffler au projet.
Et qui allait parfaitement aussi avec le logo qui rayonne.
Oui.
On pourrait limite se dire que c'est fait avec le même corps, enfin, la même graisse de lettres.
le principe du logo, il est étendu aussi sur le logo du Cercle Rameau. Le Cercle Rameau, c'est le cercle des partenaires du Centre de Musique Baroque. Et ce logo fait de traits, de filaires, on a pu l'étendre et proposer exactement le même principe d'un logo animé, avec des formes qui, cette fois, ne représentent pas un rayonnement, mais un C en cercle concentrique, pour parler justement de ce cercle de mécènes. On retrouve ce logo qui peut prendre vie de la même manière que le logo de la structure.
C'est un C, mais est-ce que c'est une pièce de monnaie ?
Ce sera pas une pièce de monnaie, non.
Pour un cercle de mécènes, ça pouvait être.
Ça pouvait tout à fait. Sur la gamme colorée, on est parti sur, donc, pour la gamme institutionnelle, une gamme très sobre, une gamme faite de noir, de blanc et de doré, qui inscrit de manière très cohérente l'ensemble de la structure. Donc. Et ensuite, cette gamme vient s'étendre en fonction des pôles, à des teintes qui sont des teintes beaucoup plus actuelles et beaucoup plus acidulées. On a un bleu qui est un bleu presque électrique, et on va avoir un corail qui va venir contraster tout ceci. Au niveau de chaque pôle, en fait, ça nous fait donc un ensemble de 6 teintes, et chaque pôle vient choisir dans ces 6 teintes, en fait, la gamme de couleurs qu'il va lui-même utiliser. On se retrouve donc avec un ensemble cohérent, mais avec des pôles qui ont des communications qui restent spécifiques. En termes d'iconographie, on s'est trouvé avec à disposition une base d'images qui étaient des images d'époque, qui étaient des images très belles, et des images de spectacle. Ces images gravées, la plupart du temps, n'avaient plus vocation à être utilisées parce que l'équipe les avait déjà beaucoup vues et qu'ils les trouvaient très datées. On a choisi de les traiter pour la plupart en bicro, ce qui nous a permis de donner un contraste et, encore une fois, de les remettre au goût du jour.
Ça nous on a fait du recyclage, on donne une nouvelle vie à des anciennes images.
Ouais.
C'est drôle, hein, juste en changeant 3 couleurs, on remet au goût du jour une image qui a été usée, entre guillemets, à force d'être utilisée. What else? Y a-t-il une blague sur CMDV? Y a pas une...
Je veux dire que ça t'a fait écouter de la musique baroque. Maintenant, j'écoute que de la musique baroque. Mais du coup, tu vas pas montrer les dessins qu'on avait fait aussi, non?
Bah là, ils sont pas sur le site, mais non. Non, en fait, par contre, ce qu'on pourrait faire sur le CMBV, ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire un article sur tout ce qui a pas été pris, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont intéressantes, notamment les dessins de Jonas, le rayonnement qui a été fait, ouais. Qui avait été programmé d'ailleurs par Jérémy. Ça pourrait être chouette.
C'est ce qu'on va faire.
Et tu parles pas de cinétique encore?
Non, mais parce que c'est pas complètement prêt, donc. C'est dommage d'en parler maintenant.
Bon, 4 ans. Peux le dire rapidement.
Dire quoi? Dire qu'on s'occupe aussi de la signalétique de l'entièreté du bâtiment, que le bâtiment est très beau et que du coup c'est un vrai plaisir de travailler sur la position d'éléments qui sont des éléments presque architecturaux et de savoir comment on peut jouer avec des formes dans l'espace pour indiquer des directions sur ce bâtiment qui est un bâtiment classé. C'est un très joli projet.
En termes de cinétique, le projet s'y prête naturellement assez bien, justement, avec ses contraintes patrimoniales. Et ce qui est drôle, peut-être, c'est qu'on a abordé l'identité visuelle, donc un élément qui sert à communiquer, presque comme une signalétique aussi, avec une forme de modestie, de finesse et de précision, et donc pas forcément comme des objets de communication publicitaire, mais comme une identité presque patrimoniale aussi.
Ce qui permet logiquement d'arriver à une signalétique... Ou limite, t'as même pas besoin de faire le travail, Gaspard.
Tu peux le dire comme ça.
Tu peux. 3 mois de boulot.